Les bifurqueurs.
Ah, moi je comprends complètement qu'il y a quand même un décalage entre les modèles de réussite traditionnels et l'état actuel du monde, quoi, qui est quand même... Enfin, on voit qu'il y a des crises à tous les niveaux, quoi, des crises environnementales, sociales, politiques.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, on va zoomer sur une tendance qui est la hantise absolue de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière. Nous sommes le 7 juillet 2045, et il a mis son plus beau costume, le Daniel Echter collection printemps été 2009, pour assister à la remise de diplôme de son fils aîné. 87 000 euros, c'est ce que lui a coûté son cursus à HEC. Une somme qui l'a obligé non seulement à vendre l'Omega Seamaster qu'il s'était offerte pour ses 50 ans, mais également à accepter les séances de dédicaces en grande surface pour son livre « D'où ça sort l'anthologie ?» 20 ans de gai savoir. Cyril a donc les larmes aux yeux de voir enfin tous ses efforts récompensés quand son fiston monte sur l'estrade pour recevoir le diplôme d'HEC qui va lui ouvrir les portes de ce statut magique que son paternel n'aurait fait que caresser pendant toutes ces années d'intermittent du spectacle, le statut cadre. Seulement voilà, tout va s'effondrer en quelques instants quand ce fils ingrat va annoncer dans son discours qu'il ne compte pas entrer chez Capgemini pour devenir executive manager du marketing opérationnel, mais que, ne souhaitant pas faire le jeu d'un capitaliste écocide devenu fou, il bifurque pour élever des alpagas dans les Deux-Sèvres dans une communauté végane. Dans l'assistance, un costume Daniel Echter vient de faire un malaise. Une lolocotée, comme on dit dans le petit milieu de l'entreprise. Dans l'ambulance qui le mène aux urgences, Cyril verra sa vie défiler sous ses yeux, toutes ces années de sacrifices pour qu'enfin un jour, Lacarrière fasse une vraie grande école, pas l'école de journalisme de Sciences Po. Un rêve brisé par l'ingratitude d'un mioche qui décide au dernier moment de bifurquer parce qu'il lui faut un métier qui ait du sens. Mais est-ce que Cyril a fait son difficile, lui? Non, il a présenté le Lacar News quand on lui a dit de présenter le Lacar News, parce que c'était comme ça qu'on faisait, de son temps. Bref, aujourd'hui, zoom sur les bifurqueurs, ces étudiants qui décident de s'asseoir sur le grand diplôme pour embrasser une autre vie, souvent plus proche de la nature. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Leurs parents leur coupent-ils les vivres? Surtout, que nous racontent-ils de notre époque? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Morgane Meyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Morgane, vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS à l'École des Mines de Paris. Vous avez écrit en 2022 un article universitaire intitulé justement « S'engager, bifurquer, déserter, pragmatique des critiques et sensibilité écologique des élèves ingénieurs ». Vous avez donc étudié ce phénomène des bifurqueurs qu'on va décrypter avec vous pendant une heure. Juste le temps de vous présenter ceux qui n'ont pas intérêt à bifurquer, car je compte sur eux. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Au rapport.
À vos côtés, toujours là. J'espère bien. À vos côtés, Morgane, elle, à une époque, elle a failli bifurquer vers la chanson. Enfin, la chanson.
C'est un virage.
Plus précisément, l'électropop sous LSD. Oui. Heureusement, elle a rapidement refurqué vers le journalisme. Chaque après-midi, Manon, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur le sujet du jour.
Un militant écologiste français qui ne s'était pas destiné à ça à la base. Il a bifurqué de ses études pour s'engager pleinement dans son combat.
Face à vous, Morgane, parfois, lui aussi songe à tout quitter. Sa vie mondaine, de vernissage, en défilé, de courses automobiles, en fashion week. Dans un coin de sa tête, il y a ce projet de devenir apiculteur en biodynamie en Basse-Normandie. Il s'occuperait des abeilles et son pote Polo l'aiderait en cas de pépin. Car on n'est jamais à l'abri de se prendre un dard. En attendant, il continue sa quête de sens en interrogeant les passants sur notre mot du jour. Alors Quentin, est-ce que vous avez croisé beaucoup de bifurqueurs?
En tout cas, j'en ai cherché jusqu'à Jouy-en-Josas, Mathieu.
Ah bah oui.
Pourquoi Jouy-en-Josas?
Ah oui.
Parce qu'à HEC, à un campus là-bas, je suis allé discuter avec l'avenir du business français, voir si ça va bifurquer ou pas.
Vers 16h30, challenger les possibles. Certains se contentent d'en rêver, d'autres le font. Comme Christophe Castaner, notre ancien ministre de l'Intérieur, devenu responsable greenwashing chez Shein. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte des reconversions les plus incroyables. Et si jamais dans l'eau, il est question d'un humoriste d'Europe 1 devenu subitement de gauche en passant sur Inter, la personne qui prépare le quiz sera démise de ses fonctions. Juste avant 17h, nous aurons l'honneur d'accueillir Rosa Burstein. Mais alors d'abord, on va se plonger dans ce sujet. Aujourd'hui, les bifurqueurs. Morgane Meyer, en quoi ces bifurqueurs ils sont représentatifs de notre époque?
C'est quand même un questionnement profond de notre société sur l'état du monde, mais aussi sur l'état futur du monde. Et je crois que c'est un terme qui résume vraiment très très bien toutes les questions autour de l'urgence climatique, des questions écologiques. Et c'est un terme donc, que j'ai suivi depuis 2022. Et ça m'a vraiment intéressé, touché toutes ces discussions dans les remises diplômes auxquelles vous avez déjà fait allusion au début.
C'est un homme justement dévasté par la perspective que j'ai esquissée tout à l'heure qui se tient devant vous, Morgane. Imaginez que son fils, sur lequel il mise tant, puisse un jour le trahir pour devenir vegan. C'est un peu comme si le fils d'Emeric Caron lui annonçait qu'il voulait devenir torero. Cyril ne pardonnerait jamais de le déshériter sur le champ. En attendant, racontez-nous, mon cher Cyril, les bifurqueurs, d'où ça sort ?
D'un réveil, d'un sursaut, d'une prise de conscience, d'un ras-le-bol, d'une fragilité, appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que la voie toute tracée n'est plus une voie royale. Intégrer de grandes écoles, glaner des diplômes, accumuler des stages prestigieux, afficher une réussite académique impeccable, c'était l'assurance d'une vie professionnelle aboutie. Et ça reste vrai. Sauf qu'une partie de ces étudiants a qui tout devait réussir n'ont tout simplement plus envie de cette vie déjà écrite, donc ils bifurquent. Et s'il n'y a pas de moment où une génération a décidé de changer de route, un événement a marqué les esprits. C'était il y a presque 3 ans, en mai 2022, cérémonie de diplôme de l'AgroParisTech Salgavo à Paris. Des étudiants montent sur scène pour recevoir leur diplôme et finalement, rien ne se passe comme prévu.
À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous aussi, nous avons douté, mais nous refusons de servir ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
Des étudiants qui bifurquent au moment même où on allait leur faire des ponts d'or pour rejoindre les meilleures boîtes du secteur, c'est une surprise. Leur vidéo fait le buzz, ils dénoncent le manque de perspectives ou des perspectives qui ne les intéressent plus. Alors, ils appellent à un sursaut et à un virage radical. Ils sont dans une quête de sens, de valeurs plus humaines, écologiques ou sociales. Ils veulent travailler à la transition énergétique, dans l'agriculture durable, la permaculture, dans des projets artistiques ou même sociaux. Certains vont dire que ces jeunes diplômés veulent fuir, ce n'est pas le cas. Ils ne suivent juste pas la voie balisée que leurs parents imaginent pour eux. Alors, qui sont ces bifurqueurs ? Est-ce que c'est un luxe de bifurquer ? Vers quoi est-ce qu'on bifurque ? Est-ce que ça dépasse le simple cas du coup de tête ? Est-ce qu'on revient de cette bifurcation ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Morgane, comme nous l'a dit Cyril, c'est donc un phénomène assez récent. Vous nous dites l'étudier depuis 2022. Est-ce qu'il y a eu vraiment un événement déclencheur de cette volonté des étudiants des grandes écoles de passer à autre chose, de changer de voie complètement ?
Oui, tout à fait. Il y a quand même eu l'événement déclencheur duquel vous avez parlé. Donc, on est en 2022. En fait, la vidéo a été mise en ligne en mai 2022, mais la cérémonie a eu lieu en avril. C'était le 30 avril 2022. Et donc, ce qui était prévu, c'était qu'une personne prenne la parole pour parler des enjeux écologiques et climatiques. Et en fait, cette personne a décidé avec d'autres élèves de « hacker » entre guillemets l'événement. Et donc, vous voyez aussi, le contraste est énorme. Donc, une cérémonie de remise de diplôme, c'est quelque chose de très prestigieux. Tout le monde est bien habillé, les parents sont là. C'est quelque chose de très... on est très dans la célébration avec la musique, etc. Et là, bam, un discours vraiment très cash, très critique, où 8 personnes défilent tour de rôle pour dénoncer la guerre faite aux vivants, les jobs destructeurs, etc. Après le discours, il y a eu des applaudissements, il y a eu des reprises des termes bifurcation, mais aussi désertion dans d'autres grandes écoles, HEC, Polytechnique, ESSEC, ENSAT.
On va en parler durant cette heure ensemble, mais est-ce que ça a été un one-shot ou est-ce que ça a vraiment fait des émules ? Est-ce qu'aujourd'hui, à HEC, il y a vraiment, AgriTech ou AgroTech ou à HEC, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants sur une promotion qui vont décider de bifurquer ? Ça représente combien d'étudiants ?
Oui, non, il y a un groupe d'étudiants, ça dépend aussi de la bonne volonté de la direction. Parfois, il y a aussi de la censure, c'est ce qu'on a aussi entendu. Et donc, du coup, je crois, de nos jours, ça fait partie du répertoire normal qu'il y ait dans une cérémonie de remise de diplôme qui dure, on va dire, 2h, 2h30, 3h dans ces zones-là, un discours qui fait quelques minutes, donc ce n'est pas l'entièreté de la remise de diplôme, qui est quand même critique et qui problématise toutes ces questions écologiques et climatiques.
Mais est-ce qu'ensuite, il y a une conséquence sur la vie professionnelle de ces jeunes ? Est-ce que vraiment, au-delà du discours qu'ils font le jour de la remise du diplôme, est-ce qu'effectivement, ils décident de ne pas entrer dans le moule du capitalisme tel qu'il est
Tout à fait. C'est aussi des choix qu'ils ont déjà faits avant, leur prise de parole. Mais souvent, ils ne veulent plus travailler typiquement pour les grands groupes ou pour les banques, pour faire des métiers plus manuels, plus concrets, dans l'agriculture, par exemple.
Mathieu Noël sur France Inter.
Renoncer à un beau paquet de pognon pour se rapprocher de la nature, pour Manon Mariani, c'est un cauchemar. Pour de plus en plus d'étudiants diplômés de grandes écoles, c'est un choix de vie délibéré. Zoom cet après-midi sur ce qu'on appelle les bifurqueurs. Notre invité, le sociologue Morgan Meyer, a étudié cette tendance. Ce qui revient dans les témoignages qu'on a pu lire et que vous avez pu recueillir, c'est la recherche de sens, cette fameuse recherche de sens. C'est quoi ce sens que recherchent les étudiants ?
Tout à fait, c'est peut-être le terme qui revient le plus souvent, sens ou dissonance cognitive. Et donc, ils sont vraiment dans une frustration, dans une friction entre d'un côté ce qui est attendu par le métier d'ingénieur ou d'un élève qui sort d'une école de commerce, et l'autre côté, leur engagement, leur valeur par rapport à l'environnement, par rapport au climat. Et donc, beaucoup se disent frustrés ou anxieux et questionnent justement la voie tracée, la voie dorée vers être PDG d'une entreprise et leur propre conviction qui les pousse à faire autre chose.
Pardon Morgane, mais s'ils se sont engagés dans cette voie-là, enfin à HEC, il faut passer un concours, on ne vient pas vous chercher. C'est qu'il y avait une envie de rentrer dans les clous au départ ou de faire ces métiers-là, puis finalement, en cours de route, ils se rendent compte que le monde va mal et que ce n'est pas ce qu'il faut faire.
C'est parfois en cours de route, disons, c'est rarement, les études montrent que c'est rarement un moment, un grand déclic où on va seulement réaliser quelque chose. C'est souvent par petites touches, c'est souvent par des rencontres, c'est souvent par aussi des choses qu'on voit à l'extérieur de l'école, ou l'école de commerce ou l'école d'ingénieur. Des films, des bouquins, des conférences qui vont amener quand même à une sensibilisation graduelle sur ces thématiques.
Mais ils bifurquent avant d'être diplômés, il y en a qui bifurquent après être diplômés.
Disons, les deux, il y a des gens qui, après un ou deux ans de travail dans une entreprise, par exemple, décident de quitter, on en a. Mais il y a aussi des gens qui, lors de leur cursus, voient que ce n'est pas quelque chose qui les intéresse, qui les stimule vraiment. Et donc, ils vont, pendant ce cursus, et aussi parfois pendant ce cursus, ils vont être dans des associations écologiques. Et on a de plus en plus dans les grandes écoles. Ça explique aussi un peu ce renouveau.
Mais est-ce qu'en ne cherchant que du sens personnel à son avenir, on n'a pas une forme d'individualisme là ?
Je crois que justement le terme bifurqué, c'est à la fois quelque chose de très individuel, de très focalisé sur la personne, ses émotions, sur soi. Mais dans les discours, il y a quand même une critique envers, on va dire, je mets entre guillemets, le système. Donc la critique qui englobe, on va dire, le capitalisme, la surconsommation, les dégâts environnementaux. Et donc on va aussi dire que c'est des choix personnels, professionnels, mais ça les impacte sur la planète Terre. Donc il y a quand même d'un côté le côté individuel, mais de l'autre côté aussi quand même un côté collectif revendiqué.
Morgan, loin de moi l'idée de critiquer ces jeunes. Certains nous écoutent, hein, il y en a qui écoutent Inter. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une part de renoncement ? C'est-à-dire qu'ils pourraient, ils sont bien placés puisqu'ils sont dans les grandes écoles, ils pourraient tirer profit de leur diplôme pour intégrer les plus grandes boîtes et changer les politiques des boîtes ou changer politiquement les politiques à l'échelle d'une nation. Et là, il y a un renoncement. C'est-à-dire partir, ouvrir un atelier de réparation de vélo au fin fond de l'Ardèche, c'est une bonne idée, c'est bien pour eux, mais c'est pas comme ça qu'ils vont changer le monde, quelque part. Je parle comme OSS 117.
Oui,
c'est vrai, c'est fou.
C'est le monde qui change.
Ouais, c'est le monde qui change.
Mais vraiment, il va chez le coiffeur.
Mais néanmoins, il n'y a pas un peu de vrai dans ce que je dis ?
Oui et non. Donc, je me suis amusé à retranscrire, à analyser une dizaine de discours qui ont été prononcés lors de ces cérémonies de remise de diplôme. Et on voit vraiment une ligne de tension intéressante entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, le coup de pince, le modèle de discours critique, c'était à AgroParisTech, où les termes bifurqués, déserteurs ont été mis sur agenda politique, pour dire comme ça. Mais de l'autre côté, il y a eu des discours qui reprennent plus ou moins mot à mot le terme bifurqué, à l'ENSAT à Toulouse ou à l'ESSEC, par exemple. Mais il y a aussi d'autres écoles, à l'École des Mines, par exemple, ou à HEC, où on est quand même aussi critique par rapport à cette posture. Et ils disent explicitement, il ne faut pas déserter, il ne faut pas bifurquer, mais changer le système de l'intérieur. Donc il y a quand même les deux visions. Tous ces discours ne se valent pas.
S'écarter d'un chemin tout tracé, tordre le cou au destin, lui aussi l'a fait. Puisque je vous rappelle que s'il n'avait pas décidé de bifurquer, on allait un jour draguer Willy Rovelli sur France Bleu, Quentin serait aujourd'hui senior sales manager Café Richard pour le Grand Ouest. Et ça, c'est vrai.
Je gagnerais mieux ma vie,
et vous gagneriez certainement beaucoup mieux votre vie avec les bonus de fin d'année. Au lieu de ça, il est là avec nous et chaque après-midi, il part à votre rencontre sans rien essayer de vous vendre.
Je vous emmène à Jouy en Josas, qui, oui, je vous le concède, Manon, malgré ce que son nom peut laisser sous-entendre, se trouve bien à une trentaine de kilomètres de la capitale et qui accueille l'un des campus d'HEC. En arrivant devant l'entrée, il est avec son sac de cours. Je fais la connaissance de ce jeune homme, bonnet noir, capuche d'un sweat gris sur la tête.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Nolwenn. Actuellement, je suis en service civique à l'AFEV. Donc c'est une asso étudiante qui accompagne des jeunes de quartiers populaires, des jeunes suivis par les sociales à l'enfance. Et sinon, je suis étudiant à HEC Paris.
Je lui propose de découvrir le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Les bifurqueurs. Ce sont les étudiants diplômés de grandes écoles qui choisissent de changer de voie dans une logique militante afin de ne pas, selon eux, détruire la biodiversité et la nature en général. Ah, moi je comprends complètement qu'il y a quand même un décalage entre les modèles de réussite traditionnels et l'état actuel du monde, quoi, qui est quand même... Enfin, on voit qu'il y a des crises à tous les niveaux, quoi, des crises environnementales, sociales, politiques, et que les gens se disent, en fait, bah, mon parcours de réussite individuelle, belles études, grande école, etc., il vaut peut-être pas grand-chose face aux défis, aux enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, que simplement réussir à avoir un beau métier et des beaux bureaux, quoi.
Il me dit que c'est aussi pour ça que son année de césure lui fait du bien. Après un stage un peu classique dans un bureau de marketing, il se confronte à des problématiques sociales et d'égalité des chances. Elle patiente en attendant son bus qui ne va pas tarder. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Valentine.
Ah, vous êtes un peu surprise, vous passez à la radio ?
Très. En plus, j'ai la voix cassée, c'est pas pratique.
Quel âge vous avez-vous ?
Moi, j'ai 26 ans.
Elle est en dernière année d'un master média, art, création et gestion culturelle.
Ouais, ça m'évoque peut-être ces gens qui font des grandes écoles et qui après décident de prendre une voie complètement différente. Je regarde ça avec un peu de surprise en me disant mais ça relève plus du pétage de câbles et je pense que si on a un objectif d'écologie par exemple, tout lâcher pour aller ouvrir une ferme mais selon un modèle qu'on n'a pas forcément complètement réfléchi, ça peut être un peu dommage parce qu'en fait avec l'expertise qu'on a quand même acquise, que la société nous a donnée parce qu'avec HEC, on peut faire des choses.
Je lui explique la prise de conscience, après quelques mois dans une entreprise, le mal-être et l'engagement militant pour être davantage en accord avec ses valeurs.
Mais par contre, ce qu'ils font, c'est génial. Enfin, l'ambition de servir, c'est génial.
Mais ce que vous dites, et après je vous laisse partir dans votre bus, c'est mettre au service ce qu'on a pu apprendre dans une grande école pour la mettre au service d'une cause, par exemple.
Ah bah oui, complètement. Que si les gens intelligents vont tous faire du conseil ou tous faire de la finance, c'est très bien, il en faut. Mais c'est aussi dommage parce que la société a besoin de gens qui ont envie de faire des choses et qui sont armés. Qui sont armés pour engager les autres et qui sont armés pour avoir des financements, qui ont des outils intellectuels aussi.
Alors est-ce dommage de ne pas se servir de ces qualités pour les mettre à profit à un haut poste, par exemple ? HEC, en tout cas, a bien cerné la problématique de ces nouvelles attentes. À l'intérieur du campus, il y a des assos écolos, des masterclass sur l'écologie animés par François Gémen, notre invité préféré, qui n'est jamais contre une bonne prise de parole et rémunéré. Je fais la connaissance de Thibaut. Que fait-il, lui ?
Double diplôme droit des affaires et fiscalité, donc c'est un double diplôme avec la Sorbonne.
Nous discutons des études et de leurs coûts.
Je ne suis pas boursier, donc c'est 60 000 euros pour l'ensemble de la scolarité. J'ai la chance d'avoir une famille qui peut faire caution, en tout cas dont la banque accepte qu'ils signent la caution. Maintenant, c'est emprunt bancaire à la BNP, voilà.
Vous avez misé sur vous ?
Un peu obligé, oui. Un peu obligé, oui. La banque aussi a misé sur moi, techniquement, mais...
Vous n'allez peut-être pas faire partie des 14% qui deviennent militants ?
Pour l'instant, probablement pas, non. Probablement pas pour l'instant.
J'entends dans son sourire un peu gêné que même s'il voulait bifurquer, il y a quand même un sentiment de redevabilité envers ses parents. Alors qu'elle sort de sa voiture, j'arrête cette femme, doudoune rouge, cheveux impeccablement coiffés. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Hélène.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis professeure de contrôle de gestion. Les bifurqueurs. Écoutez, moi, ça me surprend beaucoup. Voilà, je dirais que je pense qu'il y a quand même déjà beaucoup d'étudiants qui se retrouvent en école de commerce parce que ce sont des voies assez générales, etc. Et donc, en fait, ils ne savaient pas bien ce qu'ils voulaient faire.
Alors, les écoles de commerce et les grandes écoles sont-elles la suite d'une voie générale en se disant que ça finira bien par mener quelque part ? Le problème, c'est que ça fait cher le temps de réflexion pour savoir ce qu'on veut vraiment faire de sa vie.
Après, vous voyez, entre le rêve, le désir de ce que l'on veut faire, on veut changer le monde, etc. Et puis après, je vais être très prosaïque, mais la réalité économique qui fait qu'il faut quand même gagner sa vie aussi pour être indépendant vis-à-vis des parents, peut-être aussi rembourser l'emprunt. Non, mais la réalité, c'est quand on bifurque, il faut quand même vivre aussi, hein, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand même on bifurque aussi quand on a les moyens de bifurquer. C'est quand même ça, la réalité.
Il est pris au sérieux, ce thème des bifurqueurs, par les étudiants, par les grandes écoles, les profs aussi. Mais intéressant de noter qu'effectivement, le move des bifurqueurs s'adresse avant tout à des privilégiés.
Merci Quentin.
Je vous en prie.
Morgan Mier, vous êtes sociologue, vous avez étudié ces bifurqueurs. Est-ce que, comme le disait Quentin, et comme ça ressort un peu du micro-trottoir, est-ce que la bifurcation est un sport de riche ?
Il y a, il faut regarder dans un premier lieu quand même, disons, l'écosystème ou la population des grandes écoles. Et en effet, les élèves qui sont dans les grandes écoles viennent souvent de milieux aisés. Donc, le premier public auquel s'adressent ces élèves sont quand même dans des situations privilégiées. Mais je crois que ce serait quand même un peu réduire le mouvement ou la visée politique pour dire que ce serait qu'un sport de riches. Il y a aussi des gens qui viennent de milieux défavorisés et ça s'adresse, le message s'adresse pas seulement à un public d'élèves, mais aussi aux entreprises, au pouvoir public. Donc je dirais que c'est quand même un peu plus large que cette seule question.
Il faut rappeler qu'il y a des étudiants boursiers, Thibault l'a nommé, mais revenons quand même sur ces grandes écoles. Est-ce qu'elles ont eu peur de ce mouvement ? Parce qu'on voit qu'il y a des masterclass sur l'écologie, des assos, et vous le disiez, de plus en plus nombreux sur les campus, et puis ces années de césure où on s'engage socialement pour des causes, elles se sont dit, il faut qu'on remette du sens au milieu des études.
Il y a quand même du renouveau. Je crois que maintenant, toutes les grandes écoles se positionnent par rapport à la transition, par rapport au développement durable. Il y a des nouveaux cours, mais la critique, elle est toujours là. La critique, c'est une critique à plusieurs niveaux, qu'on ne prend pas assez au sérieux le changement climatique. Il y a finalement peu de cours sur la transition au changement climatique, que les cours sont relativement peu interdisciplinaire, que c'est plutôt maths, gestion, sciences dures, et peu de sociaux, sciences po, histoire, philosophie, et que finalement, on questionne aussi peu l'emprise des boîtes à travers des financements. On a mentionné BNP Paribas, il y a beaucoup de discussions sur le financement de Paribas, de certains masters, par exemple. Donc ça, c'est aussi une critique qu'on entend. Il y a peut-être peur, c'est parfois le bon terme, il y a des directions qui ont peur que ça fasse mouvement.
Thibault disait qu'il avait pris un crédit, qu'il avait misé sur lui, mais il y a aussi les parents qui misent, entre guillemets, sur leurs enfants. Comment ils réagissent ? Comment l'entourage réagit quand un enfant dit qu'il va bifurquer ?
Il y a des familles dans lesquelles cette bifurcation n'est pas du tout surprenante, où les parents sont déjà dans un questionnement, on va dire, politique, qu'ils sont sensibilisés aux enjeux écologiques et qu'ils accompagnent quand même souvent leurs enfants vers cette bifurcation. Et de l'autre côté, il y a quand même des familles où c'est une surprise, où c'est un questionnement, où les parents se disent, est-ce qu'on a raté quelque chose ? Et ils ont peur par rapport au choix professionnel, par rapport à l'argent qu'on peut gagner en faisant peut-être de l'artisanat ou de l'agriculture. Et donc, il y a aussi ces questionnements-là. Il y a aussi des ruptures au niveau des familles, où les enfants ne parlent plus à leurs parents. Mais il y a, disons, c'est pas nécessairement, la rupture n'est pas d'office le mode. Donc, il peut y avoir un accompagnement. Et aussi pour dire que cette bifurcation, ce n'est pas seulement, on va dire, bobo écolo. Ouais. On la voit aussi dans des milieux plutôt catho, plutôt de droite.
Ah oui, ça existe aussi.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Dans cette émission, il n'y a que des numéros 10 de la reconversion. Un ancien VRP des Cafés Richard, une ex-chanteuse électropop et un former agent du FBI en régie. Même mon auteur Gérald Darnaud a passé 20 ans de sa vie en costume CEO dans une banque où il conseillait aux clients toujours de prendre la formule offensive. D'où l'approximation bien compréhensible et excusable de ces quiz. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des plus épatantes reconversions professionnelles à l'image de celle du GOAT, du bifurking, le Pelé du retournement de veste, Christophe Magique Castaner, passé de ministre de l'Intérieur, poète sur Instagram, à Égérie Mulet chez Shein, où il est désormais référent greenwashing, son dernier haïku pourrait d'ailleurs être « plus c'est gros, plus ça passe ». Vexé qu'on se moque de lui, il a réagi ce week-end dans la tribu du Dimanche en déclarant « les gens pensent que je suis assez idiot pour n'avoir comme capacité que celle d'avoir un carnet d'adresses ». Oh oui, c'est fou ce que les gens sont cons, c'est dingue. Fais pas attention à eux, cri-cri. Les plus belles reconversions, c'est parti, top à la question. Né à Dijon en 1974, élu député et conseiller général en Saône-et-Loire, je crée une première fois la polémique en me faisant choper en train de jouer au Scrabble sur mon iPad en pleine session parlementaire. Je ne regrette pas, j'avais une maçonnerie avec xylophone sur une case mot compte triple. Nommé secrétaire d'État dans le gouvernement Valls II, j'ai éclaté le record de brièveté en étant contraint à la démission au bout de 9 jours seulement en raison de mes déboires avec le fisc. Dans ma stratégie d'évitement de l'URSSAF, j'ai été un modèle pour Quentin. Lui, condamné définitivement pour fraude fiscale en 2019, je me suis dirigé ensuite vers l'édition et plus récemment la comédie. J'ai en effet été acteur aux côtés de Benjamin Laverne dans le film De Grandes Espérances en 2023. Célèbre pour ma phobie administrative, je suis l'homonyme d'un ancien humoriste de Zoom Zoom Zen. Je suis.
Oh là là, je l'ai pas.
Je l'ai plus non plus.
J'ai pas écouté la moitié parce qu'on me parlait dans l'oreillette. Pourquoi vous regardez comme ça?
Parce que c'est catastrophique. Je suis un homonyme d'un ancien humoriste de Zoom Zoom Zen. Je suis évidemment Thomas Thévenoud. L'occasion de saluer.
Pierre Thévenoud.
L'occasion de saluer effectivement notre ancien humoriste Pierre Thévenoud dont le badge 2022 pendouille encore tristement au porte-manteau de notre open space. Mais attention, main sur le buzzer. C'est reparti. C'est lundi, dans mon lit,
les 11h. Mal au cœur. On gagne du temps, là.
Qu'est-ce qui se passe là? Envie de pipi.
La poésie emporte tout sur son passage. Avec cette ode magistrale au quotidien, Jesse Garonne cartonne en 1983, sacrée époque. Issu du conservatoire et chanteur de gospel, sa carrière sera presque aussi fulgurante que celle du Zoom Zoom Zinc. 1983. Après s'être essayé à l'enluminure, après avoir repris ses études pour décrocher une maîtrise en sciences médiévales à la Sorbonne, après avoir même remis à niveau la bibliothèque théologique du grand séminaire de Nevers, puis continué à étudier et publier une thèse, il décroche son diplôme de... thanatopracteur, vétérinaire ou naturopathe?
Ah, c'est...
Maintenant, vous connaissez Jesse Garonne.
Non, mais bon...
C'est pourtant une bonne réponse. La réponse, c'est Jesse Garonne est devenu naturopathe, un peu finalement comme Rick Azaray. La bonne santé, un tube qui figure dans le top 3 Spotify de Quentin en 2024.
Non, c'est faux.
Musique toujours. Je suis l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes français vivants, avec environ 30 millions de disques écoulés pour seulement 7 albums solo. Contrairement à ce faussaire de Gilbert Montagnier, j'ai tout composé moi-même, quoique sous divers pseudos comme Sam Brevsky ou O Manor. Exilé à Londres depuis 2016, je demeure la personnalité
Jean-Jacques
préférée
Goldman.
Des Français. Je suis Jean-Jacques Goldman, je suis oui. J'irai au bout de mes
rêves. Bel extrait.
Vous n'avez pas la version Star Academy?
Non, je ne l'ai pas maintenant. Jean-Jacques Goldman, c'était pour 0 point évidemment. En revanche, saurez-vous me dire... C'était pour 0 point,
dommage,
c'était trop facile.
Content,
saurez-vous me dire de quel
même
diplôme
moi, je l'avais.
Quel diplôme a obtenu Jean-Jacques avant d'écrire ses plus belles chansons?
Ah, je l'ai.
L'EDEC.
Quoi?
L'EDEC. Une école, maintenant. Renseignez-vous.
J'ai cru que vous aviez dit l'évêque.
Centrale, vous connaissez Centrale, Manon?
Oh, ça va, oui.
Ou Normale Sup?
B, C, pardon.
C. Non, A.
On va apprendre que Jean-Jacques Goldman avait fait Normale Sup. Réponse A, l'EDEC. Bien joué, évidemment. Jean-Jacques Goldman aurait pu devenir contrôleur de gestion de sa formation économique. Il a conservé quelques notions quand même, d'où la domiciliation fiscale à Londres. Attention, autre reconversion étonnante. Je tenais le premier rôle dans un film français qui a fait 8 millions d'entrées en 1994. Et voilà à peu près à quoi se résume ma carrière cinématographique, même celle de Benjamin Tranier est plus impressionnante. Après avoir été commercial dans l'immobilier, puis expert en cigares dans des duty-free, je suis finalement devenu greffier. Je bosse aujourd'hui au ministère de la Justice. Sur ma fiche Wikipédia, il y a marqué Ludwig Briand, 42 ans, ce qui ne va pas beaucoup vous aider, j'en ai conscience.
Quoi?
Mais pour gagner ce point, il vous suffira de me donner mon nom dans ce fameux film, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Ariel Dombal,
Mimicicu.
Et Miu Miu, je suis Mimi Sicu. Je suis Mimi Sicu, vous entendez ici, tonton d'Orville qui prend quelques droits d'auteur, ça fait du bien. Et oui, Mimi Sicu, enfin, avant de bifurquer, il faut déjà...
Tonton David est mort en revanche.
C'est vrai.
Il est décédé.
Eh bien, oui, mais il y a une famille qui touche des droits. Vous entendez? Vous l'entendez? Il est tout ce que Quentin aurait voulu être. Grand, musclé, célèbre et chanteur. Ouais. Membre iconique d'un groupe dont les posters ont fourni à Manon ses tout premiers orgasmes, je vous présente...
J'étais trop petite, ah bon, ça va pas.
Pardon. C'est un enchaînement de dérapage incontrôlé dans ce quiz. Gérald Darnaud sera licencié sur le
champ. C'était Billy Crawford.
Je vous présente Adèle des To Be Free, dont la dernière tentative musicale, l'album anglais Excuse My French, c'était tellement bien vendu que la maison disque avait fait faillite. Eh bien, Adèle s'est remis en selle grâce au bifurking pour devenir caviste abonné dans le 11e, barista à Dubaï, ou concierge de luxe à Genève.
C'est B. Je crois que c'est C.
Quentin, quelle culture musicale. Mais bien sûr, la réponse c'est...
L'accent.
Partir un jour, mais en Falcon, concierge de luxe spécialisé dans la location de jets privés, il n'y a que la Suisse, terre d'accueil des citoyens du monde, pour offrir de telles opportunités. Victoire magistrale,
oui.
Très large, de Quentin.
Je ne sais pas comment.
2-1, on se calme.
Non.
Oh, c'est une belle victoire. Pardon. Merci à tous.
4-1, Manon. Vous n'avez pas fait les
dates. Il y a eu 5 questions.
Eh ben c'est ça, 4-1.
Selon
les becs.
Selon que vous êtes le jeune épris de liberté ou ses parents qui ont payé l'école de commerce, le chiffre fait froid dans le dos ou chaud au cœur. Aujourd'hui, près d'un étudiant de grande école sur 3 décide de changer de plan de carrière. C'est ce qu'on appelle les bifurqueurs. Le sociologue Morgan Meyer a étudié ce phénomène. Il est avec nous cet après-midi. Morgan, est-ce qu'on sait si c'est une tendance très française, la bifurcation, ou c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans le monde?
On retrouve quand même des mouvements similaires ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, en Australie, Allemagne, Afrique, il y a plein de... à la fois des révoltes des étudiants, des discussions, des critiques envers leurs établissements d'enseignement supérieur. Et il y a de plus en plus, depuis les Fridays for Future, depuis les marches pour le climat, de plus en plus de militantisme, d'engagement pour les causes climatiques.
Dans votre article, vous rapportez un terme qui revient souvent dans des conférences étudiantes, à l'ESSEC notamment. L'ESSEC qui est une grande école de commerce, je le précise pour Manon. C'est le mot... Indignation. Indignez-vous est même utilisé comme le titre du livre de Stéphane Hessel. C'est une référence auprès de ses étudiants, Stéphane Hessel ?
Peut-être pas une des premières références. C'est souvent les références qui ressortent. C'est par exemple L'âge et l'hôtèque de Philippe Biwix ou le Demain, le film documentaire. Mais c'est aussi un livre qui est lu, qui est connu. Et donc, quand j'ai analysé le discours fait à l'ESSEC en 2022, ce qui m'a frappé, le terme « indignez-vous » est mentionné 13 fois. Ouais. Donc c'est quand même le mot porteur de ce discours. Et disons, la critique, elle est très présente dans ce discours, mais aussi des autres. Il faut s'indigner par rapport à l'état du monde, de l'écologie, on va dire, mais aussi c'est une critique frontale, directe, envers le capitalisme et la surconsommation.
Oui, en même temps, c'est pas une révolte spontanée, c'est presque marketé, leur coup de venir sur scène, à la remise des diplômes, c'est un bras d'honneur aux institutions, aux parents, aux générations d'avant aussi. C'est presque, oui, c'est presque marketé, en fait, leur révolte.
Je ne sais pas si on peut parler de marketer, parce que disons, ils ont été, j'ai discuté avec des bifurqueurs d'Argo Paritech, et ils étaient quand même surpris du coût médiatique, la résonance médiatique que ça fait. Donc, la vidéo vue un million de fois, Jean-Luc Mélenchon qui répond aussi, plein de méditions d'édition, les contacts pour faire un livre. Donc, c'était pas la volonté initiale, mais quand même, ils sont quand même conscients des jeux médiatiques. Il y a des réseaux, des assos qui se monde, et les discours après l'agro, ils jouent ce jeu-là, ça c'est clair et net.
Est-ce qu'il y en a qui bifurquent et qui regrettent, vous en avez rencontré, qui reprennent potentiellement leurs études après ?
Je n'en ai pas rencontré, non.
Bon. Ça peut,
non ? Je vous demandais tout à l'heure si ces étudiants ils pouvaient changer les choses de l'intérieur. Je voyais que de nouveaux métiers émergent comme consultants sur la transition environnementale des secteurs bancaires et financiers. C'est des métiers qui n'existaient pas, j'imagine, il y a une dizaine d'années. Est-ce que, tout à l'heure, je blaguais sur Christophe Castaner qui devient, je crois, responsable RSE pour Chine. Est-ce que c'est des métiers qui ont du sens, ça, pour ces bifurqueurs, ou c'est du bullshit, c'est du greenwashing, en l'occurrence, là ?
Disons, il y a beaucoup de critiques aussi par rapport au greenwashing pour dire que la RSE ou pour dire que plein de choses qu'ils ont affichées responsables écologiques ne le sont pas en fait dans les...
Ils ne sont pas dupes de ça, oui.
Ils ne sont pas dupes, mais je crois qu'il y a une grande fraction des gens qui vont quand même changer les choses de l'intérieur, et quand on leur demande est-ce que vous avez envie de bifurquer, ils disent j'ai déjà bifurqué. Je travaille pour une entreprise, ça peut être une grande entreprise, mais je m'engage pour la décarbonisation, pour des choses comme ça.
Est-ce qu'on n'a pas un problème en France d'orientation, Morgan Meyer, plus jeune, pour éviter qu'au bout de 4-5 ans d'études, on bifurque ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver avec les conseillers d'orientation, avec plus jeunes au collège, peut-être, de pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire?
J'aurais envie de dire l'inverse. Il faut plutôt peut-être encourager et prendre au sérieux ce phénomène. On peut dire que c'est entre... J'ai juste quelques chiffres. Par exemple, à HEC, il y a 11% des élèves de HEC qui ont signé ce qu'on appelle le manifeste pour un réveil écologique. À AgroParisTech, c'est 36%. Donc, ça vous donne aussi une idée qu'il y a différents pourcentages. Donc, ce n'est pas un phénomène marginal. On peut dire que c'est, grosso modo, un tiers, je dirais, des étudiants qui s'engagent vraiment, qui sont vraiment motivés, qui sont très, très sensibilisés. Et donc, que faire au niveau des cours et que faire au niveau des pouvoirs publics?
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Et il n'y a pas que les personnes qui ont fait des grandes écoles qui bifurquent, comme nous l'explique Manon Mariani avec l'autre personne à suivre.
Et oui, je vous présente Cyril Dion, il a 46 ans, il est français et il est devenu l'un des militants écologiques les plus présents dans la sphère publique ces dernières années. C'est même un collègue à nous puisque tous les mercredis, dans la Terre au carré, il fait une chronique où il parle d'écologie. Elle s'appelle « La lutte enchantée ». On aime beaucoup le titre et je vous la recommande. Mais ce qu'on sait moins sur Cyril Dion, c'est que c'est aussi un bifurqueur. Alors, je tords un peu le terme car il n'a pas fait une grande école à proprement parler, mais il n'en a pas moins une trajectoire atypique, une sorte de bifurcation au sens où l'entendent les nouveaux militants du changement. Car dans les années 2000, après avoir entamé des études de théâtre et d'acting, Cyril Dion prend un tournant radical. Il s'engage au sein de l'association Colibri, qu'il cofonde avec Pierre Rabhi, pour promouvoir une société plus respectueuse de l'environnement et de l'humain. On peut dire que c'est cette décision de mettre son énergie et son engagement au service de la planète qui rend sa démarche emblématique de celle des bifurqueurs, abandonner une voie conventionnelle pour embrasser une mission qu'on considère comme essentielle pour l'avenir. Et puis c'est en 2015 que Cyril Dion se fait connaître du grand public avec le succès retentissant du film documentaire Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent. Le film explore des solutions concrètes face à la crise écologique. Il connaît un succès mondial et remporte le César du meilleur film documentaire. Un cinéma militant où il utilise l'art comme levier de changement. Le film a été multi-récompensé. Et en 2021, il réalise Animal. Cette fois, Cyril Dion met en lumière la crise de la biodiversité à travers les yeux de deux jeunes militants écologistes. Animal explore les causes de l'effondrement des espèces animales et végétales tout en montrant les initiatives qui tentent de freiner cette disparition. Le choix des bifurqueurs est souvent présenté comme un acte de résistance face au modèle dominant, on l'a dit, et une recherche de cohérence entre leurs actions et leurs idéaux. C'est ce qu'on a dit dans cette émission et en sens Cyril Dion, on est un bon exemple.
Merci Manon Morgan. Mais au final, oui, on peut ouvrir cette définition de bifurqueur, c'est pas que les personnes issues de grandes écoles finalement.
Tout à fait, oui, je crois que ça vaut le coup d'élargir un peu le périmètre de bifurcation. Ça sort bien sûr, disons, si on fait la biographie de ces termes, ça sort des grandes écoles. Il y a même eu un avant AgroParisTech 2022 qu'on peut peut-être mentionner, c'était à Centrale en 2018, un discours un peu similaire qui a été fait par Clément Chouanne. Et donc, il dit aussi, il n'utilise pas le terme bifurqué, déserté, mais il part du doute, je doute, je m'écarte. Depuis 2022, disons, la racine, c'est plutôt AgroParisTech. Mais voilà, je crois que c'est déjà en train d'être le cas. On voit plein de livres, il y a eu un documentaire sur France 3 sur la bifurcation. Et donc, c'est quelque chose qui, si on regarde les médias, la presse, on voit qu'il y a 3-4 fois plus d'articles sur la bifurcation.
J'ai cru que vous alliez dire que certains journalistes vont bifurquer. Attention, attention.
J'espère bien.
Ne privez pas de mon équipe.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël. Sur France Inter.
Lui, s'il n'avait pas bifurqué, il serait aujourd'hui au moins cardinal. Habile, il peut dire tout et son contraire en moins de 24 heures. Diplomate, il a réussi à se fâcher avec Bayrou. Tricheur, il a truqué une partie de Trivial Poursuite.
Non.
Pervers, il a failli mettre un polichinelle dans le tiroir à la serveuse du resto où on a fêté Noël. Oui, vraiment. Il avait toutes les qualités requises pour devenir pape, se désole l'abbé Chibrard, qui n'a jamais digéré sa bifurcation vers le journalisme païen. Bonjour Pierre Courade.
Autant rentrer dans les ordres, autant être pape. Hein,
oui. Viser le sommet. Chaque après-midi, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Les bifurqueurs, un phénomène décrit et étudié par notre invité, le sociologue Morgan Meyer. Ce sont des étudiants des grandes écoles qui décident de changer le monde autrement. La crise écologique et la recherche recherche de sens sont plus importants pour eux que l'argent, même si on a compris, grâce à notre invité, que sans argent, c'était plus compliqué de bifurquer. C'est néanmoins une tendance qui est loin d'être sous-estimée sur les campus de HEC ou d'AgroParisTech. C'est d'ailleurs à la remise des diplômes 2022 de cette école prestigieuse que le phénomène a éclaté au grand jour. Des étudiants se sont succédés à la tribune pour critiquer la logique productiviste de notre société, un système dans lequel ils s'étaient pourtant engagés en commençant leurs études. Ils sont 1 sur 3 à peu près à avoir l'intention de quitter la voie royale pour être réparateur de vélo par exemple. Une prise de conscience qui fait aujourd'hui florès, elle se fait à l'issue de stages ou à travers des lectures ou en intégrant parfois des associations écologistes. Ainsi, d'après notre invité, si la décision est individuelle, elle se veut au service de la société. Reste qu'il y a un débat actuellement chez les étudiants. Faut-il déserter ou changer le système de l'intérieur? Les parents aussi se posent des questions. Certains comprennent, voire accompagnent leurs enfants vers plus de sens écologiste dans leur métier. D'autres se demandent ce qu'ils ont raté. Ça va jusqu'à des situations de rupture. Ici, seule Manon a bifurqué pour se rapprocher de la nature. Elle est passée du canal Saint-Martin au cours de Vincennes. On a une pensée pour vos parents, Manon.
Merci, Pierre, pour ce très beau résumé. Merci, même si vous saviez pour l'abbé Pierre et que vous n'avez rien dit.
Oh non.
Je me tourne maintenant vers Rosa Burstein. Madame, et non pas Rosa Burstein qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Madame Dupont et Chaussois, merci de nous avoir rejoints pour apporter votre éclairage. Vous êtes la mère d'une bifurqueuse et apparemment, vous le vivez très mal.
Merci de m'accueillir dans votre radio. J'aurais préféré Radio Courtoisie, au moins Europe 1, mais bon, ça fera l'affaire. Je viens vous parler d'un problème qui touche de plus en plus de parents, notamment à Paris. Je ne parle pas du SDF qui a osé s'installer à Avenue Montaigne. Ça, c'est bon, le problème est réglé. Non, je veux parler des enfants bifurqueurs. On ne sait plus quoi faire. Voilà. Parce que nous, on a travaillé dur pour hériter de notre patrimoine. Et on découvre un jour qu'on a des enfants ingrats. Ma fille, c'était une élève brillante. Mention très bien au bac, classe prépa, diplôme de l'ESSEC, qui nous a coûté 60 000 balles. On avait pris du retard sur les travaux de la maison à l'île de Ré. Mais bref, retour sur investissement. Elle fait des débuts prometteurs chez KPMG. Et là, bam, crise du Covid. Et elle nous fait sa crise à elle. Elle se reconvertit en maraîchère. Si on avait su, on l'aurait pas appelée Marguerite. C'est vrai que ça fait prénom de vache, et je l'avais dit à Philippe. Et maintenant, elle passe sa vie, les mains dans la terre, elle ramasse des fleurs comestibles, mais quelle régression! Moi, j'ai sacrifié ma carrière pour elle dans la boîte de mon père. J'ai refusé les promotions pour l'aider après l'école à faire ses devoirs. J'allais pas laisser la nounou Fatoumata qui parlait français comme moi je sais planter un chou. Ah bah, mauvais exemple! Je sais le faire à présent grâce à ma fille! Mais quel cauchemar! J'ai pas divorcé du père de Marguerite pour lui assurer de la stabilité à cette gosse. Et quand j'ai découvert que Philippe me trompait avec sa secrétaire, oui, plus cliché tu meurs, bah ça arrive. Et bah est-ce que je me suis barrée? Non, je suis restée pour ma fille. J'ai accepté des années l'odeur du parfum Carrefour de cette poufiasse de Valérie. Le sourire débile de Philippe dès qu'il recevait ses textos érotiques le dimanche midi quand on déjeunait chez ma mère. Et comment elle me remercie Marguerite? Avec un bouquet? Mais va les bouffer tes fleurs comestibles, tes œillets, tes bleuets, tes bourrins. Je te les bourre là où tu sais, oui. Elle me dit, maman, j'ai connu en start-up un véritable désenchantement professionnel. Mais de quoi tu me parles? T'as cru que la vie c'était Disney, ma pauvre fille, et que tes collègues allaient chanter comme les sept nains, hey, hey, oh, pour rentrer du boulot? Non mais à mon époque, on n'avait pas de table de ping-pong, on se prenait des mains au cul de mon père. Et est-ce qu'on se plaignait? Non! Voilà. Ce à quoi ma fille me répond, mais maman, de toute façon, tu comprends rien à la richesse du monde associatif. Ah oui? Eh ben tu vas voir si j'y comprends rien. Moi aussi j'ai créé mon asso, parents de bifurqueurs en colère. Rejoignez-nous, on se retrouve tous les jeudis soirs au Demago, pas loin de Sciences Po, et on pleure ensemble. Dans notre groupe, il y a le pauvre Pascal. Lui, il était tellement heureux que son fils ait fait son école d'ingé pour palper, enfin, travailler dans l'aéronautique. Pascal, c'était quelqu'un dans le quartier, il porte dans la rue son petit chapeau bicorne de Polytechnique. La boulangère l'appelait Napoléon et il a conquis ses miches. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était une fierté ici. Et voilà que son fils se reconvertit en herboriste cueilleur en Ardèche. On dit qu'il fume le chichon et qu'il dépanne de temps en temps dans une permanence de la CGT. Quelle tragédie. On lui répète en cœur, Pascal, tu n'es pas seul. Marie-Pierre, sa fille surdouée qui avait fait la canale puis de l'édition, elle donne maintenant des cours de pole dance. Et je veux même pas vous dire ce qu'elle fait du collier de perles qu'elle a reçu pour sa communion. Elle le met dans... Ah non, je peux pas, c'est trop horrible, pardon. En plus, elle vit dans une colocation solidaire aux côtés de personnes à la rue. Mais la faute à qui? À quoi? Au catéchisme? Elle a pris un peu trop à la lettre l'enseignement de Jésus, ou plutôt celui de Marie-Madeleine, cette grosse pute. Quand l'un des parents de notre asso dit qu'il est quand même fier de son gosse, on le pourrit, il dégage. Tout notre soutien vient à cette dernière adhérente, cette mère qui a perdu sa fille, avocate pénaliste. Devinez ce qu'elle fait aujourd'hui. De l'humanitaire ? Pire. Bergère ? Pire. Sociologue ? Non, quand même pas. Bibliothécaire ? Pire. Sa fille est devenue humoriste et aujourd'hui, elle fait des blagues à la radio. La honte.
Merci, Rosa Burstein. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, sans ce très beau manteau en lapin. Et sur scène, votre nouveau spectacle dédoublé aux Têtes de l'Œuvre à Paris, ainsi qu'en tournée. Merci, Morgane Meyer, de nous avoir aidé à mieux comprendre les bifurqueurs. Les comprendre, mais certainement pas les excuser. Tiens, à préciser Cyril, histoire de mettre un coup de pression sur son fils.
Zoom Zoom Zen.